Opérateur, 15h30 sur Inter.
L'Afrique enchantée.
Hé, ma sœur, Tanso, voici mon problème. Tous les dimanches à 17h, mon mari s'enferme dans la chambre à coucher. Puis là, j'entends des bruits bizarres, il crie, il rit gaga comme ça, on dit un bête, et il chante. Je le soupçonne d'appeler sa maîtresse, ce gringrand-là.
Comment? Mais non, rassure-toi, cousine. Je suis sûre qu'il écoute l'Afrique enchantée sur France Inter.
L'Afrique enchantée, c'est qui encore cette chipie encore, là?
L'Afrique enchantée, tous les dimanches à 17h.
Yes!
France Inter, la différence.
Daniel Mermel, là-bas, si j'y suis, c'est maintenant.
Ce matin, sur cette même antenne, une jeune militante UMP. Oh mon Dieu, rien que la juxtaposition de ces trois mots, jeune et militante UMP, est déprimante. Mais enfin bref, passons. A suggéré, et là pour une fois, j'étais d'accord avec une militante UMP, que Manuel Valls, qui n'est pas du tout à sa place au Parti Socialiste, aille les rejoindre. Ah, voilà une idée qu'elle est bonne. Valls et les valistes à l'UMP. Aubry, Hollande et Royal, ops, vont rejoindre Bayrou, qui du coup, lui, se sentira beaucoup moins seul. Et quant à Arnaud Montebourg, qui le pauvre doit se sentir bien seul, lui rejoindra le parti de gauche tranquille. Comme ça, le jeu politique sera quand même beaucoup plus clair. À part ça, 60 dangereux criminels ont passé quelques heures au commissariat de police. Ces 60 dangereux criminels se font appeler des indignés. Et ils manifestaient à 300, rendez-vous compte, 300 sur la place de la République. Ils ont été d'ailleurs rapidement dispersés par la police. Il était temps parce que 300 manifestants sur la place publique, c'est vraiment la République en danger imminent. Tout va bien en France.
Salut Daniel et toute l'équipe. Je viens d'écouter ton émission, hein, c'est toujours super intéressant. Et moi je voulais rajouter quelque chose, des petites lectures. Alors c'est des bandes dessinées, ça parle de Gaza. La première c'est Gaza 1956 de Joe Sacco. Alors ça fait un... Ça part entre 1956 et aujourd'hui, ça explique bien la situation. C'est un gros pavé de 400 pages, mais ça vaut le coup de le taper. Et un autre un peu plus court, ça s'appelle Faire le mur, de Maximilien Leroy, ça c'est un peu plus petit, ça raconte la vie d'un Palestinien de Gaza qui essaye de s'en sortir. Salut.
Bonjour à tous les AMG. Voilà, j'ai lu un article dans le Libération du vendredi 16 septembre 2011. Après l'affaire Jérôme Kerviel, UBS fait à son tour les frais des opérations aventureuses de l'un de ses collaborateurs. La première banque suisse a annoncé un préjudice de 2 milliards de dollars, soit 1,4 milliard d'euros. La perte équivaut à 4% des fonds propres de la banque et réduit à néant l'économie de 1,8 milliard d'euros espérée avec la suppression de 3500 emplois annoncée en août. Voilà, d'un côté, un seul homme fait perdre 1,4 milliard d'euros et de l'autre, il faut 3500 licenciés pour économiser 1,8 milliard d'euros. Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond.
Salut aux AMG de Montauban. Pour nous aussi, c'est la reprise. Notre café repère se déroulera comme l'année dernière, tous les troisièmes mardis du mois, au café Le Régal, au centre-ville de Montauban, à 20h30. Alors rendez-vous ce mardi 20 septembre pour relancer la machine, discuter de nos préoccupations de l'été, décider des débats abordés cette année et surtout passer un bon moment de convivialité. Tous au Régal ce mardi 20 septembre à 20h30.
Salut à tous, un petit renseignement généreux. T'as parlé l'autre jour quand t'étais à la fête de l'Huma. C'est vrai que tu bouges beaucoup en ce moment. Des mutins de Pangée et du film sur Howard Zinn. Ben, moi, je l'ai commandé hier. Et puis, ça m'a fait penser à une chose, c'est que nous, le week-end du 6, 7, 8 octobre, on sera au Festival du Livre de Moinsartou à tenir bénévolement le stand des éditions Agone. Et s'il y a des gens qui veulent acheter le DVD, eh ben, ils peuvent très bien se renseigner au Mutin de Pangée. Et puis s'ils veulent acheter le bouquin « Une histoire populaire des États-Unis » ou les autres bouquins de Zine, notamment « Marx le retour », qui est une pièce de théâtre extraordinaire, eh ben, ils peuvent passer nous voir sur le stand des éditions Agone au Festival du Livre de Moinsartou. Pour ce qui est du repère et de la projection du film de Pauline Mougenot « Plat de résistance », ça sera le vendredi 30 septembre. Maintenant, on fera le repère le quatrième vendredi, le dernier vendredi de chaque mois, aux latitudes, sur la commune de Tourette. Ciao, vive, portez-vous bien. Ça va être beau cette année, la lutte.
Les gredins qui nous dépouillent nous désignent, nous, la France d'en bas, comme des voleurs, au travers des messages scélérats que diffuse votre antenne sur les fraudeurs de prestations sociales à la petite semaine. N'oublions pas que quand Jojo chourre 100 euros pour se payer des nouilles, Liliane 2 planque 100 millions grâce à son avocat défiscalisant de président. Il faut que la honte change de camp. Les mafias qui nous panurgent n'ont qu'à désigner les plus noirs d'entre nous comme vecteurs de tous les maux et de toutes les maladies pour que la peur s'empare de nous, pauvres troupeaux, et nous incite à nous blottir contre les plus vils bergers, ceux du FN comme tous ceux qui attisent les haines. Il faut que la peur change de camp. Le 15 octobre, manif des indignés, la France défilera, symboliquement, armée jusqu'aux dents. Portons fièrement nos pistolets à eau, nos mitraillettes, nos gourdins en plastique et nos bouchons de roquettes en tuyaux PVC. La peur va changer de camp. C'était Jeff à Chambéry.
Que la honte change de camp, ça pourrait être le titre de l'émission d'aujourd'hui, une heure avec Pierre Péan, l'auteur de La République des Mallettes, une enquête sur la principauté française de non-droit. Vous avez déjà sans doute entendu parler du bouquin de Pierre Péan, cette longue enquête qu'il a faite dans le moteur, dans le propulseur, le réacteur de La République, où on trouve des personnages, et en l'occurrence un personnage qui ne fait plus partie de des indispensables rouages de tout le système de pouvoir, mais qui tout d'un coup a le pouvoir lui-même sur le pouvoir. Une enquête d'autant plus intéressante que Pierre Péan n'a pas la prétention de tout savoir. Il n'a pas toutes les preuves, et il en a quand même déjà beaucoup, et c'est assez consternant. Nous, on est à Jérusalem, on part à l'instant même pour Ramallah. On a hâte de redécouvrir, de revoir cette ville qui, nous dit-on, a totalement changé, est devenue une véritable Dubaï de la Cisjordanie. Alors on va essayer de comprendre ce qui se passe là-bas, évidemment, dans le cadre de la démarche palestinienne de reconnaissance par les Nations Unies. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse judiciaire au 01 56 40 37 37.
Dans le délire de la finance des dettes du Sud et du Nord, comment les capitalistes augmentent encore leurs profits? Nous débattrons de ce thème avec Nicolas Cerciron du CADTM, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, ce soir à 20h au repère de l'Abbas Jissui de Pont-sur-Yonne, au Baroque Café, 4 rue du Pont. À ce soir.
Sur la commode, je la surnommais Niagara. C'était une femme très expressive. Fallait s'accrocher à la rive pour pas se noyer dans son delta. Un jour, bêtement, avec ma lande, je lui provoque un tsunami. Je gîte, je penche, je tangue. Le flot m'emporte hors de son lit. Réfugié sur une commode, je vois, ébahi, incrédule, ma tendre amie saisir un gode et se réjouir le vestibule. La belle, se foutant pas mal de ma soudaine disparition, m'a remplacé par un rival sur la commode. J'ai l'air d'un con. C'était Gepetti Gepetto, le poète approximatif qui versifie sous un pseudo aussi con que ses vers poussifs. Salut.
Salut, c'est Daniel Bernès, et là-bas, j'y suis avec Pierre Péan, La République des Mallettes, enquête sur la principauté française de non-droit. Flight number 2, arriving from New
York. Monsieur le Président, selon les informations qui ont été...
AFP.
Rapportées hier à la suite d'une réunion entre les...
19 juin 2009.
Partie civile dans l'affaire de l'attentat de Karachi et les juges d'instruction... Il semblerait que l'origine de l'attentat ne soit pas due à un acte terroriste, mais plutôt à des représailles de l'État pakistanais après le non-versement de commissions qui aurait dû alimenter la campagne électorale d'Edouard Balladur en 1995.
Écoutez, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Écoutez, s'il y a un braquage à Bruxelles aujourd'hui, j'y étais.
Robert Bourgis prend d'abord pour cible son ex-ami Dominique de Villepin, mais ses déclarations choc font remonter beaucoup plus loin dans l'histoire.
TF1, 12 septembre 2011.
La pratique des valises de billets fournies aux politiques français par les chefs d'État africains.
L'actualité Dominique de Villepin est faite de 1000 choses.
RTL.
Alors je vais vous livrer une plus petite chose.
9 septembre 2011.
La sortie du livre de Pierre Péan sur Alexandre Djoury, que très peu de gens connaissent, qui est quelqu'un qui a l'air d'avoir un rôle important dans la coulisse de la République. On me dit que c'est votre ami Alexandre Djoury.
C'est un ami.
Pierre Péan. Alors on va commencer par enquêter sur l'enquêteur. Ça fait 40 ans que ça dure, cette histoire, hein.
Oui, facile, oui.
40 ans, que vous faites quoi au juste? Vous essayez d'aller voir ce qui se passe derrière le paravent, quoi.
Exactement, j'adore les jeux de piste. Je suis curieux d'abord. Et puis, je ne suis pas quelqu'un qui juge. J'essaie de constater et donc montrer ce qui se passe derrière la scène. Je crois que c'est ça.
Et vous avez de la, peut-être pas de la tendresse, mais en tout cas du respect pour les gens que vous dénoncez, que vous faites apparaître.
J'aime pas le mot dénoncer. C'est vrai que au bout d'un certain temps, j'ai de la tendresse. C'est-à-dire que je peux très bien mettre en difficulté. D'abord, ce qui m'intéresse, c'est les hommes puissants. J'aime pas tuer. J'aime bien rééquilibrer les gens de pouvoir, rééquilibrer, montrer, mais pas du tout aller jusqu'au bout, quoi.
Vous dites, moi je ne fais pas un journalisme d'investigation, mais un journalisme d'initiative. Alors là, il faut nous expliquer, parce que vous êtes classé, voilà, le journalisme d'investigation, la première figure qui vient, c'est Péan, après on a Denis Robert, on a un certain nombre de figures plus ou moins connues d'ailleurs, hein, plus ou moins célèbres. Alors vous dites, ah non, mais moi c'est l'initiative. Alors c'est quoi ce journalisme d'initiative?
Tout simplement, c'est que depuis le début, fin des années 80, début des années 90, ce mot a fleuri le journaliste d'investigation. Et par rapport, d'abord j'aime pas ce mot, parce que ça a un côté flic, puis c'est directement, ça nous vient de Watergate. Hein. Et donc déjà je pense qu'enquêteur ça suffit, ça me semble un mot suffisant. Et ensuite, donc quand je constate, quand je vois depuis dans les débuts des années 90, que font les journalistes dits d'investigation, pour l'essentiel, ils ont un rapport privilégié avec les juges ou les flics, ou les juges et les flics. Et au fond, ils reçoivent les PV et les réécrivent. Mais le lecteur ne sait pas comment ça fonctionne. Et donc, il est impressionné par ces papiers qui peut dire qu'à 19h56, l'ancien ministre a chaussé des chaussures d'un type spécial. Alors que, autrement dit, ce type de journalisme-là est à la remorque des affaires judiciaires. Au fond, ce sont des journalistes qui enquêtent sur l'enquête et qui sont en réalité à l'écoute des juges et des flics. Et comme on sait que le système, surtout le système français, c'est enquête à charge, ils sont en réalité, ils le sont dans la charge, hein, puisqu'ils répercutent des actes. Alors, l'initiative, ça veut dire que moi, je ne dépends pas des affaires judiciaires. Enfin, j'espère, je me lance sur des histoires. Donc, je pense que la noblesse de ce métier, c'est d'avoir l'initiative et non d'être suiveur. Et donc, voilà, c'est la différence pour moi entre le journalisme d'initiative et le journalisme de suivisme judiciaire. Je n'attends pas qu'il y ait une perquise chez un puissant. Je me lance moi-même.
Comment vous travaillez? Parce que quand on voit ce boulot là sur la République des Mallettes qui sort là, 18 mois, hein, c'est ce qui est annoncé partout, 18 mois de boulot, mais quand même c'est très dense, vous travaillez seul, vous avez une équipe, vous avez des pigistes qui travaillent pour vous.
J'ai personne avec moi, je le regrette d'ailleurs, parce que je ferai plus d'affaires, mais je ne sais pas déléguer. Parce qu'il y a un côté intuitif, il y a un côté artisan dans ma façon. Par exemple, je manie énormément de papier, hein, énormément de livres, énormément de ça. Et donc, si je dis à quelqu'un, je vais lui dire « vois ces papiers », mais il ne va pas avoir le même réflexe que moi. Moi, ça déclenche quand je vois quelque chose, mais je suis incapable de dire à quelqu'un l'endroit où il faut déclencher quelque chose. Autrement dit, je suis incapable de déléguer. J'ai tenté, mais la seule chose que je peux déléguer, c'est dire aller à la BN, chercher tel papier, mais je suis incapable de laisser l'initiative à quelqu'un d'autre pour travailler pour moi. Et donc, je travaille pour l'essentiel, je travaille dans le fond de mon jardin, et j'ai une vieille méthode, je fais des fiches. Dès que je vois quelque chose, je note sur un carton. Et donc, je me retrouve avec un ensemble de 200, 300, 400 cartons, avec une idée par carton. Je les étale sur une grande table et j'essaie après de les réunir par petits paquets. Et c'est comme ça que petit à petit, j'essaie de trouver un fil directeur de mes enquêtes. Donc, c'est très artisanal, là, mon
truc. C'est ce qu'on se disait dans l'ascenseur avec Antoine. On dit, ce gars-là, il fait un puzzle. Hein. C'est des pièces d'un puzzle. Il prend son pied quand il a réussi à mettre une nouvelle pièce là. Il y a des trous qu'il arrivera à boucher ou pas. Et là, les trous qui manquent, ça nous amène à ce bouquin que vous publiez, La République des Mallettes, où vous dites d'entrée de jeu, pendant tout le bouquin, et y compris dans la conclusion, eh ben, il manque des pièces. C'est-à-dire que l'enquêteur, un des enquêteurs les plus populaires en France, dit, ben, vous savez, ça je ne sais pas, il en reste encore, ça c'est intuitif, ça c'est quand même assez relativement nouveau dans votre boulot. Un, et deux, vous vous mettez en scène, c'est-à-dire que vous revenez au vieux, nouveau journalisme, qui était que le journalisme lui-même fait du moi-je, hein, il dit, j'ai rendez-vous avec machin, ou j'ai pas trouvé ci, ou j'ai pas trouvé ça, ou j'ai trouvé ci et j'ai trouvé ça, on suit Péan, c'est presque le héros du bouquin, c'est Péan.
Oui, c'est-à-dire que ça s'est imposé à moi, j'ai pas réfléchi à ça, autant que vous sur cette histoire, mais... J'ai été confronté rapidement à plein de choses nouvelles. Ça ne m'était jamais arrivé. D'abord, j'ai signé mon contrat au mois de janvier de cette année, mais tout le monde parlait du livre dès le mois de juillet.
Ouais.
Et dès le mois de... en septembre, début octobre, ça s'agitait tous azimuts. Et donc, je me retrouvais au centre. C'est-à-dire qu'on me téléphonait en me disant on sait à l'Élysée qu'il y a 60 pages d'écrites, que le titre, ça sera Monsieur Alexandre. Et puis, j'ai reçu des menaces.
Menaces ?
Oui, j'ai reçu des menaces qui m'ont été acheminées par quelqu'un que je connais bien. Et puis, j'ai reçu une lettre de Patrick Huard, qui était l'ancien conseiller justice de Nicolas Sarkozy, qui lui-même avait été menacé par Alexandre Joury, qui une lettre où il me met en garde en disant le système que vous traquez tient par le secret et vous mettez système en danger justement en essayant de percer. J'ai pris ça pas au sérieux, mais j'ai quand même pris un rendez-vous avec le directeur général de la police nationale. C'est peut-être le côté méditerranéen du personnage. J'ai pas voulu du tout enfler l'histoire, mais je voulais que quelqu'un sache.
C'est la première fois dans vos enquêtes que vous avez...
Non. Où j'ai eu le plus d'histoires, c'était en 83, quand j'ai écrit Affaires africaines, où j'ai eu un nombre incroyable de menaces. J'ai eu tout. Hein, j'ai y compris après des attentats, etc.
Attentats.
J'ai eu deux attentats. Oui, et puis un contrat sur moi, etc. Mais là, c'était moins fort, mais c'était complètement différent. Et je me suis aperçu rapidement, qu'il y avait aussi, parce que ce type de personnage, tout son système donc est basé sur le secret. Il ne laisse pas de traces, il ne laisse pas de papiers. Et donc moi, j'ai l'habitude surtout de travailler sur les papiers. Je me débrouille, ça, je ne suis pas trop mauvais pour trouver les papiers. Et puis pour convaincre des gens de m'en donner, etc. Je me suis dit que je trouverais peu de papiers. Et ensuite, les gens qui me parlent, beaucoup de gens refusent de me parler. Et ceux qui me parlent off. Donc, je me suis posé à plusieurs moments, est-ce que je continue? Est-ce que je continue vraiment? Parce que je sentais que j'aurais des failles dans le système. Alors, d'où l'obligation de raconter, de mettre le lecteur dans le coup, parce que même s'il y a des insuffisances, je vais brosser un tableau qui quand même fait progresser la connaissance sur la corruption française.
C'est rien. On nous informe vraiment sur rien.
Pierre Péan, ça fait des années que vous travaillez sur la corruption. Vous faites une certaine idée de la République et vous faites une certaine idée de la corruption. Et voilà, c'est ça votre boulot.
Je reste quand même, je tiens à le dire beaucoup, je ne suis pas du tout sur le tous pourri, je suis profondément républicain. Hein, donc,
oui, ça on a compris. Mais est-ce qu'il y a une évolution de cette corruption? Ce que vous avez l'air de dire dans ce bouquin, enfin ce que vous dites dans ce bouquin, c'est que ça prend des proportions extraordinaires au point que votre héros, Djoury, devient un personnage qui est au sommet de l'oligarchie politique.
Ce que j'ai essayé de montrer, c'est effectivement le changement qui s'est opéré, disons, fin des années 80, début des années 90, sous l'effet de deux facteurs. Le premier, c'est les premiers décrets et lois pour réglementer le financement politique. Et le deuxième, un changement complet, la mondialisation, la conversion de la plupart des élites politiques au néolibéralisme et au fond, une période incroyable de l'argent roi. Donc, ce qui se passe, ce que j'essaie de montrer, c'est cette période aussi. C'est l'histoire de Djoury ne pourrait pas, à mon avis, aurait pas pu être dans une autre période. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le financement politique est très encadré. Mais les hommes politiques ont un postulat, les grands hommes politiques, c'est que celui qui a le plus d'argent a quand même des chances de gagner. Hein. Alors, si bien qu'ils sont obligés de trouver des systèmes qui sont beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus compliqués que c'était la fin des années 80. On a vu, c'était carrément les mairies, les rettes, les pères Bernès, c'était au fond des militants un peu améliorés qui transportaient des valises. Mais comme à chaque fois ils se sont retrouvés lâchés par leur hiérarchie, ils se retrouvaient devant les tribunaux, et donc ça a été la fin des militants valises, ça a été fini. Donc il y a des gens qui petit à petit se sont installés avec des systèmes beaucoup plus sophistiqués. Des systèmes où l'argent, d'abord, où la vitesse est en milliardième de seconde, et bien la corruption, elle prend ces systèmes-là très rapides et avec des coupes-feu tout le temps, qui fait que enquêter sur ces dérivations d'argent, sur ces rétrocommissions, c'est quasiment impossible. Un exemple bien précis pour dire la difficulté d'enquêter là-dessus, c'est ce qui s'est passé avec les frégates de Taïwan. Tout le monde, je veux dire, tous ceux qui se sont intéressés savent qu'il y a eu des rétrocommissions. Le juge Van Rijnbeeck, qui n'est pas le plus empoté de tous, a cherché des années. Il a finalement jeté l'éponge.
Le Conseil supérieur de la magistrature reporte sa décision sur les poursuites disciplinaires contre le juge Van Rijnbeeck.
France 3, 22 novembre 2007.
Pour Renaud Van Rijnbeeck, cette décision s'inscrit dans le cadre des pressions politiques que subissent les juges en charge des affaires sensibles.
Ce n'est pas la première tentative de déstabilisation à laquelle j'ai affaire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté très claire de s'en prendre à la justice financière. On ne veut plus de justice financière. Et puis, il y a une volonté aussi de reprise en main de la justice. Pendant qu'on me cherche des histoires sur des points qui sont très secondaires, la véritable affaire, c'est-à-dire l'affaire des frégates, elle est enterrée. Alors, peut-être qu'on ne veut plus justement de juges qui procèdent à des investigations dans ces affaires-là et qu'on a là un moyen de plus pour essayer de les déstabiliser.
Vous allez continuer à enquêter sur l'affaire des frégates?
Elle est enterrée, l'affaire des frégates. On ne peut pas enquêter sur une affaire, sur cette affaire. Secret défense, circuler, il n'y a rien à voir.
Le juge Van Rijnbeeck, il a jeté l'éponge parce qu'il y avait le secret défense et qu'il n'a pas réussi à faire lever le secret défense. Mais il affirme néanmoins qu'il y a eu 3 milliards de francs d'évaporés. C'est pas rien quand même, 3 milliards. Et on le sait, mais on ne sait pas comment. Mais pour montrer que c'est une évidence qu'il y a eu beaucoup d'évaporation, le 11 juin dernier, 11 juin 2011, la France a été condamnée à payer, je ne sais plus le chiffre exact, 456 millions d'euros, donc une somme énorme, parce que pour les commissions qui ont été indûment versées.
Le contrat du siècle, bien nommé contrat Bravo.
France 2.
Il est signé en 1991 et porte sur la vente de 6 frégates françaises à Taïwan.
5 mai 2010.
Montant total, 2,5 milliards d'euros. Des centaines de millions d'euros de pots de vin ont été versés sur des comptes en Suisse pour décrocher ce marché des frégates. C'était illégal, c'est donc pour cela que la France doit aujourd'hui payer une amende record. Un dossier sulfureux avec en toile de fond le soupçon des rétrocommissions, de l'argent qui serait revenu en France, comme l'a reconnu un ancien ministre socialiste.
Est-ce que vous croyez que ces commissions ont pu arroser des partis politiques ?
Oui.
Alain Richard.
Oui. Tous les partis politiques,
non.
Ancien ministre de la Défense.
Lesquels?
C'est une enquête judiciaire.
Mais vous avez une idée?
Oui.
Alors?
Je la garde.
Autrement dit, il y a des bénéficiaires cachés qui ont reçu plein d'argent, cette affaire-là, et c'est finalement le contribuable français,
oui, c'est ça.
Contribuable français, qui va financer ces rétro-commissions. Tout ça pour dire que c'est ultra, ultra, ultra compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait, au fond, dans mon enquête? J'ai suivi deux lignes. J'ai suivi la ligne, le fil rouge de Djoury, qui était pour moi un personnage emblématique. Et puis l'autre fil rouge, c'est d'essayer de décortiquer les affaires. Au fond, le point de démarrage de mon enquête, c'est l'affaire Clearstream. L'affaire Clearstream, je l'avais écoutée, j'y comprenais rien du tout. Et alors, j'ai, sans savoir très exactement pourquoi, passé une vingtaine d'heures avec Jean-Louis Gergorin, qui était quelqu'un avec qui je n'avais pas beaucoup de sympathie, mais j'ai été lui demander est-ce qu'il acceptait de me parler. Parce que ça collait pas. Moi, le peu que je savais de Gergorin collait pas avec le personnage de Corbeau. Et donc, je l'ai fait parler, et puis ensuite, j'ai travaillé sur les papiers. Là, j'ai réussi à avoir beaucoup de papiers, par contre. Et au fond, je me suis servi de l'affaire Clearstream comme une plaque sensible sur laquelle on voyait un peu la corruption depuis une vingtaine d'années. Pour résumer, ce qui n'avait pas été souligné et qui m'a sauté la gueule, c'est que si trois personnages intelligents, que sont Philippe Rondeau, le super espion, le juge Van Rimbeck, un grand juge, et Gergorin, stratège et ADS, ancien haut fonctionnaire, ces trois personnages, normalement, il aurait dû prendre les listings et les mettre à la poubelle. Mais pourquoi ils ne les mettent pas à la poubelle? C'est parce qu'ils ont l'idée que ça existe dans l'establishment français. Ils savent, eux, à la position où ils sont, qu'il y a de la corruption. Et donc, là, on en a trouvé peut-être un peu plus qu'on croyait, mais on ne met pas ça à la poubelle. C'est comme ça que je me suis... Et donc, qu'est-ce que c'est les faux listings? Les premiers noms ont rapport avec l'affaire des frégates. C'est pour ça que Van Rijnbeeck va y croire dans un premier temps. Donc voilà comment la mécanique de mon enquête s'est produite. Et puis après, j'ai tiré les ficelles. J'ai repris une affaire que je connaissais en d'autres temps, qui était l'affaire Elf. J'ai après pris l'affaire en route, l'affaire Karachi, qui était tout le monde ça. Tout ça pour montrer que c'était pas une vue de l'esprit. La corruption existait toujours pour constituer un trésor de guerre. Autrement dit, on voit dans l'affaire Karachi, on voit bien les batailles qui ont lieu sur les contrats pour l'élection présidentielle de 95.
Balladur Sarkozy contre Chirac-Villepin.
Chirac d'abord, là, on n'est pas... Et à 2004, Mixa, on est déjà dans la préparation de la constitution des trésors de guerre pour 2007. C'est de tout ça que j'ai petit à petit essayé de donner les contours. J'ai conscience que c'est pas complètement, les contours sont encore un peu flous, mais d'une oligarchie constituée de peu de gens, finalement, peut-être, je sais pas, quelques centaines, même pas, des gens qui vivent en dehors de la République, finalement, qui vivent avec un train de vie incroyable, qui ne fonctionne qu'en avion privé. Et je mets dans ces gens-là des gens qui sont pourtant dans la légalité, mais qui s'attribuent des salaires, des parachutes dorés totalement indécents. C'est complètement fou de voir des gens qui gagnent des millions d'euros par an, allant jusqu'à 10 millions, 15 millions d'euros dans l'époque actuelle. Et donc je pense que ces gens-là, ils sont officiellement dans la légalité, mais c'est parce qu'ils ont du poids pour que la loi soit comme ça.
Johnson, l'heure des leurs.
Ne viens pas corrompre, surtout ne me fais pas de l'ombre.
C'est l'attaque en masse derrière.
Viens ne pas nous interrompre.
Qu'est-ce qui se passe?
Je crois qu'il y a des mecs qui ont pas vraiment honte. Ceux qui carottent des gens honnêtes et se foutent de la gueule du monde. Moi c'est l'ironie.
Corruption. Un atout partout autour de nous et de nos tours. Un atout pour le ribou qui sous ma clap tout debout. Brisons les tabous.
Tous corrompus, les cons nous auront plus. Marc, le monde nous malmène, le malmène. On dit que la faute est au salmon. La décence et l'indécence innée de l'homme. Voir son essence, où est le sas de sortie. La corruption fait éruption dans tous les milieux. De la FIFA au CIO, les pôles fins sont versés. Mes vers sont là pour dire la vérité, sur eux vers sont là. Si nos pères sont là pour mentir. faut que ça cesse de barrer les accès. Je mets l'accent sur l'excès. Pouvoir, c'est bon, je crève l'abcès. Sans l'abcès, on risque de vexer. Maintenant, t'as plus qu'à plier. Après avoir multiplié les fautes, s'appuyer sur le dos du faible. Là, en pas question de faiblir. Le moindre député depuis le début est une pute. Tiens, comme seul écrit sacré, les secrets d'État.
Ils sont tous corrompus, on le sait, mais ils nous auront plus.
On reste vif alors sur le pied bas. Ça te plaît pas,
j'applique tes plans.
Puis on la ferme pas,
pas question de la fermer.
On est du B-catholique, sas d'amère catholique. C'est alcoolique, à des tripes, cato sous narcotique.
Corrompu,
quel que soit ton corps, les corps corrompus. Que tu te soulages, le colon sur
nous, nous on en peut plus. Ça devient démentiel, un tas de ploucs qui donnent leur fesse pour des sommes confidentielles. C'est pas notre genre, nous faut qu'on survive, ça devient essentiel. On caisse nos initiales, SSC plus les rieurs égale morceau crucial.
Ils ont les poches pleines, et chez nous la poisse plane. Les gosses pleines, clament, réclament, et acclament riche qu'on acclame. On blâme le crime et le pays ramasse de belles primes.
Grâce aux guerres,
ça brasse et y'a des clochards sur le quai de la gare. Qu'est-ce qu'on fait? On met le focus, on fait des casses, on casse des vides. Après le maire, dans les caisses, détournement de millions. Moi au milieu, tout ça, je m'éloigne humiliant. Pour un vol, on prend un an, lui, 6 mois. Pour une banane qui finance la finition de sa vie là. Mes projets pour la ville, c'était du vent. Le corrompu triomphe à chaque fois. À chaque fois, on lutte, c'est un échec à chaque fois.
Ils sont tous corrompus, on le sait, mais ils nous auront plus.
Pierre Péan, quand même, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on soit dans l'obligation d'attendre Pierre Péan pour montrer tout ça? Non mais, on a une justice quand même dans ce...
Mais non, mais...
Vous citez un certain nombre d'institutions, de commissions qui sont chargées de surveiller tout ça. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre un enquêteur, un journaliste enquêteur, pour révéler toutes ces choses-là?
On peut pas taper sur la justice parce que la justice a des règles justement très très strictes sur les preuves. Et donc là, quand je parle du juge Van Rienbeek et de l'affaire des frégates, il a tout fait, le juge Van Rienbeek. Mais quand les commissions passent par le Luxembourg, après Monaco, les îles Caïmans, etc., eh bien les juges sont complètement désarmés.
Ils opèrent sur un territoire limité.
Et parce qu'ils opèrent sur un territoire limité, et les commissions rogatoires aux îles Caïmans, hein, ça a quand même peu de chances d'aboutir. D'où l'appel de Genève à la fin des années 90, où les juges désarmés devant les systèmes de blanchiment qui maintenant ne sont pas arrêtés par les frontières. Donc c'est dans le système de la finance internationale. Et donc on peut pas accuser les juges de ça. Si on lit, par exemple, moi je me suis beaucoup servi de l'ordonnance de non-lieu de Van Rienbeek dans l'affaire des frégates. Donc ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire qu'il abandonne. Eh bien, même si on lit ça, on a quand même déjà une vision qui est grosso modo ce que j'essaie de montrer dans mon livre, puisqu'il affirme bien qu'il y a eu des rétrocommissions, il raconte même qu'il y a eu des morts. Il y a eu des gens d'assassinés dans cette affaire qui voulaient soulever trop le couvercle. Il y a eu, on voit dans cette ordonnance de non-lieu un témoignage d'Alain Richard, l'ancien ministre de la Défense, qui dit que sous François Mitterrand et sous Balladur, il y a eu l'acceptation de ces rétrocommissions. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est le bénéficiaire final. Parce que Van Rienbeek, il a tout fait pour y arriver. Mais même avec ces moyens que je n'ai pas, ces moyens exorbitants du droit commun, c'est-à-dire les écoutes, c'est-à-dire les perquisitions, c'est-à-dire... Eh bien, malgré ça, il n'y est pas arrivé. Mais ça n'empêche pas qu'on peut décrire un système. De la même façon, moi, je décris peu de bénéficiaires, parce que je n'ai pas les preuves. Hein, mais je décris quand même les contours de la corruption.
Mais enfin, le but de cette corruption, de ces commissions et de ces rétrocommissions, vous dites c'est pour financer les partis, c'est pour financer les élections, plus précisément. Hein,
mais je pense qu'il y a aussi, et il n'y a pas que ça, malheureusement. Voilà. C'est-à-dire ça c'est le prétexte. Hein, c'est
parce qu'après tout, on pourrait dire bon, c'est un peu pourri, mais c'est quand même voilà, c'est pour la noble cause électorale. Bon, ça passe par là, il faut du fric pour faire ça. Mais après tout, il n'y a pas d'enrichissement personnel, il y a manipulation sans doute de l'opinion, etc. Mais enfin, bon, c'est pas si criminel que ça. On pourrait être indulgent, mais vous dites qu'il n'y a pas que ça.
Ben, c'est-à-dire qu'il apparaît qu'un certain nombre de personnages de la classe politique ou de hauts fonctionnaires, je ne suis pas du tout sûr qu'il n'y ait pas des vases communicants entre le vase politique et le vase personnel. Donc, il suffit d'ailleurs de se promener, par exemple, dans des grands restaurants, parisien pour voir des hommes politiques sortir de leur poche arrière droite des gros billets. Hein, et quand vous voyez des gros billets sortir des billets de 200 euros, on peut se poser quelques questions. Donc, je ne vais pas très loin, mais je suis convaincu que cet argent noir qui circule ne circule pas que pour le financement politique. Et qu'il y a, donc il y a des affaires qui sont en train d'être instruites, par exemple dans l'affaire Karachi. On va voir jusqu'où les enquêteurs vont pouvoir aller. Mais je pense qu'il va arriver un moment où il y aura les preuves qu'un certain nombre d'hommes politiques ne se sont pas contentés de se constituer des trésors de guerre pour la politique. Je crois qu'on aboutira à avoir des preuves autres.
Monsieur le Président, Philippe Alfroy de l'agence France-Presse. Selon les informations qui ont été
AFP
rapportées hier à la suite d'une réunion entre les
19 juin 2009
parties civiles dans l'affaire de l'attentat de Karachi et les juges d'instruction, il semblerait que l'origine de l'attentat ne soit pas due à un acte terroriste, mais plutôt à des représailles de l'État pakistanais après le non-versement de commissions. On parle même de rétro-commissions qui auraient dû alimenter la campagne électorale d'Edouard Balladur en 1995. Est-ce qu'en tant que ministre du Budget, vous avez été au courant de tels accords ?
Nicolas Sarkozy.
Enfin, écoutez, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Écoutez, enfin, respectons la douleur des victimes, s'il vous plaît. Mais qui peut croire à une fable pareille ? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde là-dessus ? Et vous n'étiez pas au courant non plus, non ? Non, peut-être pas. Vous étiez peut-être journaliste à cette époque-là, peut-être à ce moment-là, je vous arrête. Non, non, mais je vous en veux pas, mais enfin, écoutez, vous, franchement, s'il y a un braquage à Bruxelles aujourd'hui, j'y étais, c'est incontestable.
Monsieur le Président.
Pierre Péan, on continue avec votre bouquin « La République des mallettes ». Alors là, on en arrive à votre héros. On peut vraiment dire un héros, oui, qui est Alexandre Djoury.
Mais si vous avez lu le livre, d'ailleurs, c'est pas négatif, ma façon de le voir. Il me fascine un peu, hein, quand même.
Ah bah un peu, oui, oui.
Je porte pas de jugement, d'abord. Mais ce qui m'a le plus intéressé, au fond, dans le personnage, c'est son trajet. Quelqu'un qui démarre à Sarcelles et qui est plutôt dans ce qu'on appelle aujourd'hui la zone de non-droit, hein, pour arriver au château...
Dans une autre zone de non-droit.
Oui, mais en tout cas, il est au château comme chez lui, depuis 95, sous Chirac d'abord, et sous Sarkozy après. Et donc son parcours est extraordinaire. Donc c'est pas quand même le parcours type des grands commis de l'État. C'est pas l'ENA, c'est pas la Polytechnique, c'est pas Centrale, c'est pas même HEC. Hein.
Oui, il y a des précédents de ces personnages intermédiaires qui connaissent le milieu, non ?
Oui, il y a toujours eu des personnages, mais pas au point d'être dans le château comme chez lui.
C'est un gamin de Sarcelles qui en fait de drôles, des durs. Il est dans une bande, il plonge dans la délinquance, il est arrêté, il n'est pas condamné.
Il n'est pas condamné, il ne sera jamais condamné. Et ça, c'est quand même assez fort. Alors là, c'est au fond le passage de sa vie qui a été le plus facile à faire, le plus intéressant, mais le plus facile, parce que là, il y a des papiers.
Voilà.
Là, il y a des papiers parce qu'il a laissé des traces, parce qu'il y a eu des enquêtes, il y a eu des PV, il a été interrogé plusieurs fois, il est très très habile d'ailleurs. Dans sa cave, on trouve des pistolets et il a des grands yeux étonnés, il se demande comment ils sont arrivés là. Il a un aplomb extraordinaire face aux policiers. Alors, donc, je décris cette période et il y a des passerelles entre Sarcelles et le faubourg Montmartre. Hein. Je raconte que c'est par David les yeux bleus que la petite bande se retrouve en fin d'après-midi dans le faubourg Montmartre, dans un cercle de jeu. Et au fond, il va vivre, Alexandre Djoury, la fin des Zemmour, qui étaient les grands bandits des années, fin des années 60 et des années 70. Et puis, la bande des Zemmour va s'arrêter, faute de combattants, ils vont tous mourir les uns après les autres. Hein. Et donc, suivre Djoury, c'est retrouver tout ça. Et alors là, pourquoi ça m'a intéressé humainement, c'est que j'ai retrouvé un certain nombre de ses anciens copains qui m'ont raconté leur vie, qui m'ont dressé le personnage, qui était un malin. Hein. C'est pas un hasard s'il a fait ce parcours-là. Il était sans doute plus malin que les autres. Et en même temps qu'il est donc dans ce cercle de délinquance, il a une tchatche terrible. Il va dans des boîtes de nuit et noue des relations avec des gens qui ne sont pas du tout du milieu de Sarcelles. Il rencontre des...
Le fils de Long.
Alors ça c'est déjà avant même, il tamponne le fils du directeur général de l'UNESCO et réussit à prendre contact avec le directeur général de l'UNESCO, de faire des connaissances avec des ministres africains, de faire... Et très très rapidement... Tout le monde le remarque, ce type qui sait rendre des services, qui est sympathique, qui a de la tchatche, etc. Et donc, il commence à se constituer un carnet d'adresses intéressant. Et aussi, il rencontre Anthony Delon. Il va être un peu le parrain du jeune Anthony Delon. Et là, c'est lui qui va convaincre Anthony Delon de monter une société pour fabriquer des blousons. Avec la marque AD, Anthony Delon, mais sauf que ça ne va pas faire plaisir à Alain Delon, qui estime qu'il a un droit sur son nom, et va s'en suivre une bataille féroce entre les champions d'Alain Delon et les champions d'Anthony Delon. Et donc, je raconte longuement cette bataille où il y a quand même des morts. Hein. Donc et pour arriver en avril 1986... où Alexandre, qui est encore pas Alexandre Joury, qui s'appelle Ahmed Joury, se retrouve à l'hôpital Saint-Louis avec une balle de 11.43 dans le dos. Et là, tournant assez incroyable, on voit dans les interrogatoires de police qu'il n'y a pas un acharnement très fort à comprendre ce qui s'est passé. Et un an après cette balle de 11.43, Alexandre Joury est naturalisé français. Or, on sait que la naturalisation oblige à des enquêtes, et il est naturalisé, ce qui est au fond la preuve par neuf qu'il est déjà protégé. Et c'est ça qui est intéressant. À partir, je ne sais pas la date exacte, mais entre 86 et 87, il est protégé par des policiers qui sont autour de Charles Pasqua. Il va devenir un personnage, alors je ne sais pas quel mot utiliser, pas indique, c'est pas bon, j'ai pas trouvé le bon mot, mais enfin, l'homme qui rend des services. Hein. Et là, à partir de là, il est protégé, évidemment. Mais comme c'est un malin, on lui fournit finalement un trousseau de clés pour ouvrir beaucoup de portes. Hein. Il est astucieux, il va devenir résident fiscal en Suisse, très rapidement il fait des affaires, via justement le flic qui s'est occupé de lui, qui s'appelle François Antonat, eh bien, il va rentrer aussi dans le système ELF, mais comme dans les affaires antérieures, quand il y a eu le procès ELF, on n'a jamais vu son nom. Et pourtant, il tourne complètement autour d'André Tarallo, d'Alfred Sirven, des chefs d'État africains, etc. Et il va devenir le copain des maîtres de ses maîtres. Hein, c'est-à-dire que lui, il était, disons, traité, comme on dit. Il était traité par des policiers d'un certain niveau. Mais là, il va monter, lui, il va être copain avec les gens des cabinets ministériels, les voire des ministres. Et on va le voir dans l'entourage de gens importants. Ça, au début des années 90, et il commence à faire fortune, sans qu'on sache jamais comment il gagne de l'argent. Hein. Alors, on peut émettre plein d'hypothèses. Moi, je l'ai entendu plein de choses, mais faire très attention à cause de la justice. Mais on dit qu'il a été porteur de valises d'abord. Puis il est devenu très copain de gens, et il était astucieux. Donc, il a monté. Et puis, en 95, il devient proche de Dominique de Villepin.
L'actualité Dominique de Villepin est faite de 1000 choses.
RTL.
Alors je vais vous livrer une plus petite chose.
9 septembre 2011.
La sortie du livre de Pierre Péan sur Alexandre Joury, que très peu de gens connaissent, qui est quelqu'un qui a l'air d'avoir un rôle important dans la coulisse de la République. On dit que c'est votre ami Alexandre Joury.
C'est un ami.
C'est votre ami, vous le connaissez
c'est
bien.
Un ami de...
Comment le définiriez-vous?
C'est un ami de très longue date.
Un homme de l'ombre, un homme de réseau, fréquentable?
Absolument pas un homme de l'ombre. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de monde, qui ne prétend jouer aucune sorte de rôle, et à qui M. Péan prête à la fois des intentions et des actions qui ne correspondent à rien.
Il rend des services à Dominique de Villepin, et...
Quel genre de service?
Ben justement, ce qu'on sait, c'est que il change de statut, mais je suis incapable de montrer un contrat qu'il a obtenu à ce moment-là qui explique comment il a de l'argent. D'ailleurs, quand Claude Guéant où Bernard Squarcini, le patron de la DCRI, lui décerne des brevets de patriotisme, des brevets bleu-blanc-rouge, des brevets drapeau de la France, hein, pour ce qu'il fait. J'ai quand même cherché un an et demi. J'ai pas pu trouver un seul contrat qui permettrait de dire « Ah ben oui, il a eu un tel contrat qu'il a garanti l'emploi de 3000 ouvriers à Saint-Nazaire ou à La Ciotat ou je ne sais où ». Je n'ai pas trouvé. Tout le monde lui décerne un brevet. Je sais que c'est en rendant des services, apparemment en rendant des services au sommet de l'État. Mais ce brevet de bleu-blanc-rouge, personne n'a pu m'expliquer comment on pouvait attribuer, cette légion d'honneur hein, de bleu-blanc-rouge. Je sais qu'il a beaucoup d'argent, je connais son train de vie, pour pouvoir ne voyager qu'en avion privé, pouvoir envoyer son avion privé à Dominique de Villepin pour aller passer 2 heures à Genève, de ne vivre que dans des grands palaces dans une suite, payer des bouteilles de Pétrus à 3-4 000 euros au Bristol, comme ça. Mais je ne sais pas comment il a gagné son argent. Au fond, c'est là mes insuffisances. Autrement dit, je décris un parcours qui va de Sarcelles au château. Je peux décrire ses relations. Hein. Par exemple, il est très proche de plus grand patron de France, hein, qui est le patron aujourd'hui de l'EDF, qui était le patron de Veolia. Ce n'est pas rien. Et surtout, dans tous les gens qui les ont vus ensemble, dans les années, au début des années 2000, 2003, 2004, ont constaté que celui qui semblait être le patron, c'était pas Broglio, mais c'était Djoury.
Les nouveaux gangsters, pas dans les balles populaires. Où sont les nouveaux gangsters, dans les partous des ministères? J'aime les vieilles légendes où des gangsters au Borsalino font cracher leurs pétards dans des bars au coco. Mais où sont les nouveaux gangsters, les plaires des palagogos? Où sont les nouveaux gogos, les gangs des bandes à Bono? C'était le tango de ma grand-mère, le tango de mon grand-père, le bon vieux tango des gangsters, de la fumée et des revolvers. Où sont les nouveaux bandits, pas chez les folles de minuit? Où sont les nouveaux bandits, dans les lupanards de Bercy? J'aime les vieilles histoires où l'on voit des bandits à gare fumer le cigare dans les trains et faire sauter les gares. Mais où sont les nouveaux bandits, les bandits des bars à gogo? Où sont les nouveaux dandys, les dandys des blazes à bozo? C'est le tango de ta mère, le tango de ta misère, le tango du ministère de l'économie et des finances.
Pierre Péan, on continue avec votre bouquin « La République des mallettes ». Vous rapportez un témoignage, il y a une engueulade entre Djoury et Broglio, et Djoury lui dit « Mais écoute, c'est toi le soldat, c'est moi le général ».
C'est-à-dire que même si évidemment Proglio nie cette affaire, mais moi je me suis servi pour écrire de chapitres de uniquement là de papier, c'est-à-dire du jugement même de cette affaire. Comme ça, donc j'avais pas, je pense que je peux pas être contesté d'avoir utilisé des documents de justice. Mais la raison elle est très simple, elle montre son pouvoir, c'est qu'à un moment donné Proglio qui était à Vivendi Environnement, Messier voulait le vider. Et qui a fait la démarche pour qu'il ne soit pas vidé? C'est Djoury, qui était déjà complètement en cours à l'Élysée, qui a demandé à Dominique de Villepin, qui a demandé à Jacques Chirac de téléphoner à Messier. Et si bien que quand Proglio arrive à New York pour se faire vider, en réalité, Messier dit qu'il est conforté dans son poste. Évidemment, ça crée des liens après. Autrement dit, la situation qu'a aujourd'hui Proglio, sans Djoury, il n'aurait pas cette position. Donc, ce qui crée quand même un rapport tout à fait intéressant de dépendance.
Rapport de dépendance, pour que des hommes aussi importants et puissants soient aussi modestes devant ce gars-là, c'est qu'il y a un chantage, il leur fait un chantage. Il les tient par les couilles, puisque ça, c'est une de ses expressions.
Alors il nie, il nie avoir dit ça, mais enfin, ça me semble, je pense que son pouvoir, c'est son vrai pouvoir, c'est qu'il connaît beaucoup de secrets depuis la fin des années 80, les secrets essentiels, les secrets d'État, que ce soit des secrets sur les gens, que ce soit sans doute des secrets sur les financements politiques, et donc, je les tiens tous par les couilles, c'est tout simplement ça, hein, c'est de connaître les secrets, et les gens savent qu'il connaît ses secrets, d'où son pouvoir. Et donc, c'est pas un hasard si la première scène de mon livre, c'est de raconter ce qui s'est passé dans un avion présidentiel au début de 2008, où Nicolas Sarkozy, devant ses ministres, raconte la peur rétrospective qu'il a eue dans l'affaire Clearstream. Et pour lui, à cette époque-là, c'est Villepin qui est à la manœuvre, mais le type qui est dans la machinerie qui exécute, pour lui, c'est Jury. Et là, il donne cette phrase que Hervé Morin m'a confirmée, reconfirmée, en parlant de Jury, s'il n'était pas venu à Canossa, il aurait eu une balle entre les deux yeux. C'est dire comment il se situe, comment il fait peur, comment il est. Et autre mystère, je le dis, mais je n'ai pas d'explication véritable, j'ai des hypothèses évidemment. C'est le fait qu'il réussit cette performance, il bascule du clan Villepinot-Chiracien au clan Sarkozy, tout en restant extraordinairement lié à Dominique de Villepin. Et donc, les hypothèses, elles arrivent évidemment à la tête, mais je ne peux pas l'écrire, les hypothèses que je fais dans la tête, parce que je me retrouve confronté obligatoirement à des problèmes judiciaires.
Alors, il y a des personnages, il n'est pas le seul. Il y a Bourgie qui est apparu récemment, que vous connaissez depuis fort longtemps. Il y a Takieddine qui fait parler de lui ces jours-ci dans l'affaire Karachi. C'est pas le seul,
mais c'est le seul avec un parcours atypique comme ça. Parce que Ziad Takieddine, je dirais, est un intermédiaire franco-libanais qui est dans la tradition des intermédiaires que tout le monde connaissait dans les années 70 et 80, c'est-à-dire les Akram Ogé, les Adnan Khashoggi, dont la fonction, au fond, est d'être à cheval sur deux cultures, la culture française et la culture moyenne-orientale, notamment par rapport à l'Arabie Saoudite et les Émirats, donc ils peuvent comprendre, ils parlent les deux langues très très bien, et sert de pont. Et donc, au fond, le parcours de Ziad Takieddine est classique. Alors que le parcours de Jury n'est pas classique, parce qu'il ne parle pas bien arabe. Et au fond, de ce que j'ai pu comprendre, ce n'est pas lui qui fait en sorte que les contrats marchent. Il est plutôt mis sur les contrats pour rendre des services. Donc, on n'est pas du tout dans le même type de système. Et puis, il y a un troisième personnage qui est Robert Bourgie. Mais là, je dirais que c'est l'école ancienne, ça. Ça me fait penser, je mets Bourgie et dans le même système que les enveloppes Bettencourt. Mais évidemment, ça frappe l'opinion, parce qu'on se les imagine bien. Hein, une enveloppe Kraft, on voit bien l'enveloppe Kraft, on peut imaginer une enveloppe avec plein de billets dedans, on imagine très bien. Ce qui est beaucoup plus difficile à imaginer, c'est les rétrocommissions qui passent par des circuits Luxembourg à les Caïmans. Et ça, même si les sommes sont beaucoup plus importantes, mais ce que raconte Bourgie, c'est la fin de la France-Afrique. Hein. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Bourgie
balance,
parce qu'il sait que c'est quasiment fini, tout ça.
Alors, on se délecte hein, à la lecture du bouquin, il faut bien avouer, il y a un côté romanesque, il y a un côté d'un personnage extraordinaire.
Il y a Jury romanesque. Hein.
Voilà.
Ouais. C'est un personnage romanesque, moi c'est ce qui m'a intéressé, donc je ne porte pas de jugement, mais il est romanesque.
Oui. Mais parce qu'il est quand même beaucoup moins marrant, c'est qu'il s'agit quand même du pays, il s'agit quand même de la République, il s'agit quand même des institutions. Il s'agit quand même de la démocratie, il s'agit quand même d'élections où les gens se disent « est-ce que je vais voter pour machin, je vais voter pour truc ?» Il s'agit aussi de contribuables qui payent tous ces pots cassés. Ouais. Donc, il y a un moment, c'est plus drôle du tout.
Non, exactement. C'est ça que j'ai essayé de... en partant, finalement, de beaucoup d'anecdotes, j'essaie de montrer les dérives d'un système. C'est pas un hasard si le titre et le sous-titre essaient de résumer, c'est les mallettes de la République d'une part et principauté de non-droit, parce que j'ai dans la tête cette liaison d'ailleurs via Jury par zone de non-droit, principauté de non-droit, c'est-à-dire dans le sommet de l'État où on retrouve donc quelques hommes politiques, quelques hauts fonctionnaires, quelques patrons du CAC 40, quelques tout ça, et une sorte de baron de ce système, de prince de ce système qui est de Jury.
C'est C'était un entretien de Daniel Mermet avec Pierre Péan, dont l'ouvrage « La République des mallettes » est paru chez Fayard le 14 septembre dernier. Pour en savoir plus, deux adresses, le site de France Inter à la rubrique « Émission », là-bas si j'y suis, et le site la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Pascal Baldassari, réalisation Bertrand Chaumeton et Franck Aderer, assisté de Marina Trouillez. Quant à Grégory Salomonovitch, il attend vos messages sur le répondeur de « Là-bas si j'y suis » au 01 56 40 37 37.
Préfonds Retraite, vous connaissez ?
Dans quelques instants, découvrez la solution retraite complémentaire sécurisée qui peut vous changer la retraite.
Préfonds Retraite.
Bonjour, Emmanuel de Tabac Info Service.
Oui, bonjour, je vous appelle parce que je fume près d'un paquet par jour et je me demandais s'il y avait des risques pour mon mari qui ne fume pas.
Ah oui, vous augmentez de 25% son risque d'avoir un cancer du poumon. C'est peut-être une bonne raison pour arrêter.
Oui, j'ai déjà essayé, mais j'y suis jamais arrivée en fait.
Oui, mais si vous n'avez pas réussi avant, ça ne veut pas dire que vous ne réussirez jamais.
Ah oui, c'est vrai.
Vous voulez arrêter de fumer ? Appelez Tabac Info Service au 3989 et bénéficiez des conseils personnalisés d'un tabacologue. 3989, un service de l'INPES et du ministère de la Santé. 15 centimes la minute.
Bonjour. Entre nous, vous êtes obligé de prendre votre voiture ? Oui ? Alors partagez-la et bougez autrement. Quand on sait qu'un covoiturage remplace entre 2 et 5 véhicules privés, ça vaut la peine d'essayer, non ? En plus, du 16 au 22 septembre, c'est la Semaine européenne de la mobilité. Renseignez-vous, tout le programme des événements est sur bougezautrement.gouv.fr.
Ceci est un message du ministère du Développement Durable et de l'ADEME.
Préfonds Retraite, vous connaissez ?
Oui, c'est le numéro 1 de la retraite complémentaire facultative de la fonction publique.
Aujourd'hui, nos experts vous conseillent au 30-25 pour vous préparer des revenus à vie sécurisés et bénéficier d'une fiscalité avantageuse.
Qui ? Moi ?
Oui, vous ! En France, 10 millions de personnes peuvent en profiter. Appelez vite au 30-25.
Préfonds Retraite.
30-25, appel gratuit depuis un poste fixe.
France Inter et la MC 93 à Bobigny présentent à partir du 23 septembre Don Giovanni, Keine Pause, une mise en scène de David Martin. Fusion de la musique et du théâtre, du classique et du jazz, du livret de Da Ponte et de textes de Sade, David Martin met en scène un jeu de rôle lucide et sensuel, laissant derrière lui les conventions. Retrouvez Don Giovanni, Keine Pause, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Il est 16h et vous êtes bien sur France Inter. Les informations avec Laetitia Gaillet. Bonjour Laetitia.
Bonjour. Pour beaucoup, c'était le dernier espoir de Troy Davis. Le comité des grâces de Géorgie a refusé cet après-midi de commuer en prison à vie la condamnation à mort de cet Américain de 42 ans. Devenu le symbole de la lutte contre la peine de mort, Troy Davis doit être exécuté demain pour le meurtre d'un policier en 91, meurtre qu'il a toujours nié. Amnesty International se dit révolté par cette décision. L'organisation de défense des droits de l'homme exhorte le procureur du district, l'État de Géorgie, mais aussi les autorités fédérales américaines d'agir. À New York, Barack Obama salue cet après-midi le nouveau chapitre dans l'histoire de la Libye. Le président américain souhaite que la transition aboutisse à des élections libres et il ajoute que la mission de l'OTAN va se poursuivre tant que les Libyens seront menacés. Cette déclaration intervient à l'occasion d'une rencontre des amis de la Libye en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Le FMI revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour la zone euro cette année et l'an prochain, 1,6% en 2011 et 1,1% en 2012 contre 2% et 1,7%. Conséquence directe, la Banque centrale européenne pourrait abaisser son taux directeur. Autre conséquence annoncée par le FMI, la croissance chinoise est revue à la baisse en raison de ses difficultés européennes mais aussi des États-Unis. Mais la croissance chinoise reste tout de même à un niveau très élevé à plus de 9%. Une catastrophe naturelle chasse l'autre au Japon. Plus d'un million de personnes sont obligées de quitter leur maison. La faute à l'arrivée d'un typhon particulièrement violent. Il touche actuellement tout le pays, Frédéric Charles.
Les vents humides de ce 15e typhon de la saison a frappé le Japon, souffle à 140 km par heure. Ces pluies torrentielles n'épargnent aucune région de l'archipel, pas même les zones sinistrées par le séisme et le tsunami géant du 11 mars dernier. Mais c'est la région de Nagoya, le deuxième poumon économique du Japon, qui est la plus touchée, par des inondations surtout. La rivière Shonai, qui traverse la ville, est sortie de son lit. Les autoroutes sont fermées, le trafic ferroviaire et aérien arrêté. 500 mm de pluie sont attendus ces prochaines heures. Les autorités de Nagoya, où sont concentrées les usines de Toyota, conseillent à un tiers de la population d'évacuer la ville. Le typhon avance lentement, très lentement. Les pluies qu'il déverse massivement sur la ville augmentent très vite. Cette nuit, les autorités de Nagoya conseillent à ses habitants de rester chez eux. Sortir est considéré comme trop dangereux. Tokyo, Frédéric Charles, RFI, pour France Inter.
Au tribunal de Paris, le parquet vient de requérir une relaxe générale dans le procès Chirac sur les emplois présumés fictifs à la mairie de Paris. On y reviendra tout à l'heure. L'héritage de Charles Trenet reste entre les mains de son ancien secrétaire personnel. Le tribunal de grande instance de Créteil a débouté cet après-midi les deux parents du fou chantant qui demandaient l'annulation du testament. Selon eux, le document rédigé en 99 l'a été sous la contrainte à un moment où Charles Trenet n'était plus en possession de ses moyens. Daniel Mitterrand est hospitalisé depuis ce week-end. C'est sa fondation France Liberté qui le dit aujourd'hui. L'ancienne première dame de France souffre d'une insuffisance respiratoire. Son état, dit-on, s'est stabilisé. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Tous les jours, à partir de 11h...
Public, Zazal, public.
Les Affranchis.
Ah, j'ai essayé une fois de lire Camus en faisant la chenille, c'est quasiment impossible.
Isabelle Giordano.
Je vous donne rendez-vous avec toute l'équipe des Affranchis demain. Êtes-vous sûr de bien connaître Jean-François Copé? Il sera avec nous pour nous parler musique plus que politique. Et nous recevrons également la comédienne Élodie Navarre, en ce moment au théâtre.
Pour assister à l'émission, rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 10h30 devant la porte B de la Maison de Radio France.
Prenez vos amis, si vous en avez, vos familles, vos animaux.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La différence.
Carrefour de l'Odéon, Frédéric, bonjour.
Bonjour Laetitia. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Tout à l'heure, vers 16h30, je recevrai le très grand pianiste franco-chypriote Cyprien Katsaris, il est compositeur en plus, ambassadeur de la musique on peut dire. Et justement, il va au Japon assez souvent, il va peut-être nous parler de ce pays qui souffre énormément ces temps-ci. Avant cela, je vous parlerai aussi d'un très grand chef qui s'est endormi tranquillement. Ça arrive que les artistes finalement finissent tranquillement et en douceur et peut-être dans son lit qu'il est mort, Kurt Sanderling. On ne sait pas, mais en tout cas, il aurait eu 99 ans hier. Bon, pas trop de regrets quand même, c'était un célèbre chef d'orchestre allemand. Je raconterai un peu son histoire et je ferai entendre quelques-uns de ses enregistrements. Et pour l'instant, place à la jeunesse avec un événement demain à Cannes-la-Bocca, avec l'orchestre de Cannes toujours au top niveau, avec Philippe Binder, infatigable et talentueux. Et puis François-René Duchâble, le pianiste, qui a un parcours assez étrange parce qu'il a flanqué littéralement son piano dans le lac, enfin pas le très beau, mais enfin bon, symboliquement, il s'est débarrassé de la carrière classique, il a donné son habit à queue et il a juré que plus jamais il ne jouerait dans des concerts traditionnels. Donc il se produit, François René, parce qu'il manque au public, il se produit dans des événements un peu étranges et tout à fait enthousiasmants, comme celui-ci, mercredi donc à 20h, c'est 2 avenue Maurice Chevalier à Cannes-la-Bocca. Le sport danse en musique. Alors il y aura quoi? Il y aura le Racing Club de Cannes, volley féminin, l'école supérieure de danse de Cannes, l'orchestre Sinfo News, qui est un orchestre mélangé avec les professionnels de l'orchestre, bien sûr, de Philippe Binder de Cannes, Alpes-Provence-Côte d'Azur, et puis des jeunes qui viennent travailler, mise en espace et chorégraphie Cyprien Emmanueli, ça vaut le coup, c'est tout nouveau, et je vous propose d'entendre tout de suite François-René Duchâble dans une des œuvres qui seront données ce soir-là, c'est-à-dire demain. Préparez votre rendez-vous, c'est pas cher, 8 et 5 euros, donc conclusion du deuxième concerto pour piano et orchestre de Franz Liszt par François René. Thank you. Allegro Animato et Stretto, c'est-à-dire en serrant, en pressant, la conclusion du deuxième concerto de Franz Liszt par François-René Duchâble avec London Philharmonic Orchestra dirigé par James Conlon. François-René Duchâble, donc, pianiste d'exception et très original, avec l'orchestre de Cannes-Provence-Côte d'Azur demain au Palais des Victoires Cannes-la-Bocca, avec des sportifs, le Racing Club de Cannes, le volleyball féminin, et puis la danse, l'école supérieure de danse de Cannes, les jeunes. Voilà, quelque chose d'extraordinaire, un essai, certainement une réussite. Comment faire aimer la musique dans des circonstances pas tout à fait habituelles où le ballon et les gestes gracieux des danseurs, des danseuses vont se marier aux archers et au souffle de l'orchestre de Cannes dirigé par Philippe Binder. C'est demain, on peut trouver tout renseignement sur le www.orchestre-cannes.com, orchestre-cannes.com, et puis numéro de téléphone. Il y en a encore qui n'ont pas internet, je sais. Alors donc 04 92, dont moi, je précise, je reprends, 04 92